vendredi 23 février 2018 et voici Au quotidien des quotidiens, votre revue de presse avec pour vous servir François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis. Il y a des traditions auxquelles on ne saurait déroger et parmi celles-ci, les éphémérides. Alors, hormis la naissance de ma mère en 1915...
C'est vrai. Ah ben attendez, je vais le rajouter sur mon document. Je ne l'avais pas, désolé.
Que s'est-il produit un 23 février, Mathieu Tessier?
23 février, 1655. C'est la date admise de publication de la Bible de Gutenberg, le premier livre occidental imprimé avec des caractères mobiles. Ensuite, je saute en 1879, la première parution du journal La Patrie, fondé par Honoré Beaugrand. 1893, Rudolf Diesel reçoit le brevet pour le procédé du moteur diesel. 1898, à la suite de la publication de J'accuse, célèbre lettre dans laquelle il prend la défense du capitaine Alfred Dreyfus, Émile Zola est condamné à un an de prison et 3000 francs d'amende, la peine ayant été confirmée en appel le 18 juillet suivant. Zola se réfugiera à Londres. En 1903, Cuba loue à perpétuité la baie de Guantanamo aux États-Unis. 1909, pilotant son Silver Dart à Baddeck en Nouvelle-Écosse, John Alexander McCurdy réussit le premier vol motorisé en sol britannique. 1919, Benito Mussolini forme le Parti national fasciste en Italie. Toujours en 1919, le même homme, Benito Mussolini, rompt avec le Parti socialiste et crée son mouvement. Bon, je suis en train de me répéter, en fond. 1947, je vais sauter la ligne au-dessus, fondation de l'Organisation internationale de normalisation, le ISO. 1954, toujours un 23 février, à Pittsburgh, première inoculation de masse du virus. Hey, ça va bien aujourd'hui.
Du virus,
du virus,
oui.
Non, je vais recommencer. À Pittsburgh, première inoculation de masse du vaccin Salk contre la poliomyélite. Une loi du Québec crée l'Université de Sherbrooke en 1954. 23 février 1958 à La Havane. Pour se faire connaître, des rebelles castristes enlèvent le pilote de Formule 1, Juan Manuel Fangio, et le libèrent le lendemain. Nous avons en 1959, première réunion de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Nous avons en 1982, le ministre Claude Charron doit quitter le gouvernement Lévesque après une tentative de vol à l'étalage. En 1994, aux Jeux olympiques de Lillehammer, Myriam Bédard remporte l'or au 7,5 km du biathlon. La veille, elle avait gagné l'épreuve du 15 km. Il m'en reste deux. 23 février 1997, des chercheurs britanniques annoncent la naissance il y a 7 mois de la première brebis clonée. Elle s'appelait Dolly. Mm-hmm. Voilà. Et en 2002, l'ancienne sénatrice colombienne Ingrid Betancourt et Clara Rojas sont enlevées par des rebelles des forces armées révolutionnaires de Colombie, que l'on appelle le FARC.
Et si vous n'aviez qu'un événement à fouiller parmi tous ceux-là, je vous invite à vous informer sur l'affaire Dreyfus. C'est absolument fascinant.
Fascinant, indeed.
Un récit d'espionnage qui a eu des suites, là, mais jusqu'à ce jour, puisque c'est lors de cette affaire qu'un journaliste juif a lancé un appel au sionisme qui devait donner Israël. Alors, on passe à des choses peut-être un peu plus contemporaines et on commence avec la presse, comme c'est de coutume à cette émission, pour parler de Bombardier. Le métro pour sauver des emplois à la Pocatière, c'est un texte de Denis Le Sart. Aux prises avec des pertes d'emplois importantes à l'usine Bombardier de la Pocatière, le gouvernement Couillard envisage d'accélérer le remplacement des voitures de métro mises en service dans les années 70 à Montréal. Il y a 4 ans, cette commande, coûteuse, avait été repoussée jusqu'en 2036 par la Société de transport de Montréal. Selon les informations obtenues par la presse auprès de trois ministères concernés par le projet, c'est ce à quoi Philippe Couillard fait allusion quand il évoque une solution prochaine pour l'usine en panne de contrat à compter de l'automne prochain. Encore cette semaine, en tournée dans le bas du fleuve, il soutenait que d'ici quelques semaines au maximum, en tout cas avant les élections, il y aura des précisions pour qu'on puisse garantir du travail en continu à l'usine. Québec compte annoncer rapidement la solution qu'il envisage pour limiter le plus possible la durée des licenciements, mais le communiqué n'est pas encore écrit, convient-on à Québec. À compter du début de l'automne, les licenciements commenceront à tomber à l'usine de la Pocatière. On prévoit que 300 des 600 employés seront temporairement suspendus. L'usine compte 400 ouvriers et 200 cadres. La commande actuellement en cours, celle de 2010, consistait à remplacer par des voitures Azur les voitures M63, mises en fonction à l'ouverture du métro. À l'origine, le contrat de remplacement comprenait les rames mises en service dans les années 70, les M73. Mais le contrat de 1200 véhicules à l'origine avait été révisé à 486. À l'automne 2014, la STM avait choisi de prolonger de 20 ans la vie des 423 M73, une facture de 108 millions, plutôt que de renouveler le parc avec des Azur. Chaque voiture coûte théoriquement 2,5 millions, mais la facture réelle est moindre compte tenu des économies d'échelle. Un remplacement de tout le parc aurait ainsi pu dépasser le milliard. Mais chez Bombardier, des sources indiquent que la commande et le prix restent à discuter avec le gouvernement. En vertu des ententes entre les villes et Québec, c'est Québec qui paie la facture pour le matériel roulant. Le remplacement des M73 se heurte toutefois à certains obstacles. Il faut modifier les garages et les mécaniciens plus âgés auront besoin d'une mise à jour importante. Actuellement, deux cohortes travaillent chacune sur un type de voiture, Azur ou M73. La décision tomberait à point nommé pour le gouvernement. Depuis deux semaines, il est sérieusement malmené à l'Assemblée nationale par l'opposition péquiste qui s'insurge de l'absence de retombées pour le Québec dans l'attribution du contrat du réseau express métropolitain, le REM, un pactole de 6,3 milliards de dollars. Si on parle de matane, on associe naturellement une petite crevette, l'industrie papetière peut-être, mais sûrement pas le Bitcoin. Et pourtant, Matane veut transformer une papeterie en mine de Bitcoin. C'est un texte de Gabriel Bellin. Des investisseurs ont contacté Matane au moyen d'intermédiaires et restent pour l'instant anonymes. Impossible de savoir si des groupes chinois sont dans la course. C'est le maire de Matane qui parle. Les gens qu'on rencontre ont été embauchés par les promoteurs. Ils sont très discrets car c'est un milieu hyper compétitif, explique Jérôme Landry, qui est toutefois inquiet de voir qu'Hydro-Québec envisage de hausser les tarifs d'électricité pour cette filière hautement énergivore. Il faut savoir que là, les anciennes cartonneries de Matane sont visées. Deux de ces entrepreneurs ont même visité Matane et l'ancienne usine Rockton. Ils souhaitent installer des centaines d'ordinateurs conçus spécialement pour miner des crypto-devises, dont le Bitcoin. Ils trouvent le site drôlement intéressant, explique le maire. Le Bitcoin est une monnaie virtuelle, ça ne relève d'aucune institution financière. Ces transactions sont donc colligées dans une espèce de grand livre commun, la chaîne de blocs ou blockchain. Elles exigent, la réalisation de calculs complexes qui demandent une myriade de processeurs. Les mines de Bitcoin sont donc des entrepôts d'ordinateurs qui réalisent ces calculs à longueur de journée. Quand un mineur sur la planète résout une énigme, ce qui arrive toutes les 10 minutes, il touche 12,5 Bitcoin. Un Bitcoin valait environ 12 800 $ jeudi au moment d'écrire ces lignes. Ce système a donc donné naissance à une énorme industrie lucrative qui a connu un grand bouleversement cet hiver. En janvier, le gouvernement chinois a publié une directive qui vise à chasser graduellement cette industrie de son sol, notamment en haussant les tarifs d'électricité. Depuis, les mineurs ont les yeux tournés vers le Québec, perçu comme une terre particulièrement propice pour cette industrie grâce au faible coût de son électricité et à son climat froid. Hydro-Québec confirme avoir reçu une centaine de demandes pour des projets de mines de crypto-monnaie. Certaines de ces mines pourraient consommer de 200 à 300 mégawatts. Et pour vous donner une idée, le Centre Bell, lui, en consomme 5. C'est donc une très, très grande consommation pour des ordinateurs. L'ancienne cartonnerie de Matane ne sert à rien depuis sa fermeture en 2012. Le maire de la municipalité évoque la possibilité qu'un entrepreneur en crypto-monnaie rachète carrément l'usine, enlevant une épine du pied de la ville. Toutefois, et je vous le rappelle, il s'agit quand même d'une industrie hautement spéculative puisque c'est une valeur totalement artificielle et très remise en question puisqu'elle est très, très opaque. Ah, la visite de Justin Trudeau en Inde fait couler énormément d'encre. D'abord parce qu'on l'a vu, il aime les costumes locaux. Ensuite, parce qu'il a invité, on a invité un extrémiste séparatiste sikh lors d'une réception officielle au Haut Commissariat du Canada en Inde. Et pour mémoire, je vous le signale, dans un pays du Commonwealth, le Canada n'a pas d'ambassade. Il a un Haut Commissariat puisque la reine ne saurait se représenter chez elle. Donc, ce ne sont pas des ambassades, mais des hauts commissariats, ce qui est totalement la même chose. Donc, Inde. Trudeau évoque les risques de violence du souverainisme du Québec. Un texte de Joël Denis, belle avance. Durant sa rencontre avec le chef du gouvernement de l'État du Punjab, Amarinder Singh, mercredi, Justin Trudeau a tenu à affirmer que le Canada appuie sans équivoque une Inde unie et qu'il s'oppose à l'extrémisme violent dans l'espoir de mettre fin aux critiques de New Delhi, selon lesquelles des ministres influents du cabinet Trudeau feraient avec des groupes séparatistes Punjabi au Canada, en particulier le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, une accusation qu'a déjà démenti le principal intéressé dans le passé. Selon un compte-rendu du gouvernement du Punjab, Justin Trudeau s'est livré à cette confidence durant la rencontre de 40 minutes qu'il a eue avec M. Singh. Citant le mouvement séparatiste au Québec, Trudeau a dit qu'il avait composé avec de telles menaces durant toute sa vie et qu'il était pleinement conscient des dangers de la violence, des dangers qu'il avait toujours combattus avec toute sa force, a dit Ravin Trukral, conseiller principal pour les médias d'Amarinder Singh, au terme de la rencontre. Amarinder Singh a par la suite remis à Justin Trudeau une liste de 9 personnes vivant au Canada soupçonnées par les autorités indiennes d'être impliquées dans des crimes haineux au Punjab en finançant et fournissant des armes à des groupes subversifs. Les tensions entre le Canada et l'Inde, de plus en plus perceptibles durant la visite officielle de 8 jours de Justin Trudeau, se sont accentuées au cours des dernières années en raison des préoccupations des Indiens quant à une hausse de l'extrémisme sikh provenant de certaines communautés sikhs du Canada. Les apparitions de Justin Trudeau lors de certains événements sikhs où étaient présents des extrémistes qui sont partisans du premier ministre ont également causé du mécontentement en Inde. Amarinder Singh a par le passé qualifié les 4 ministres sikhs au sein du cabinet Trudeau, Arjit Sajjan à la Défense, Navdeep Bains à l'Innovation, Amarjit Sohi aux Infrastructures et Bardish Shagher, leader du gouvernement en chambre, de sympathisants khalistanais et a refusé l'année dernière de rencontrer le ministre Sajjan. Le bureau du premier ministre n'a toutefois guère fait allusion aux propos de Justin Trudeau sur le mouvement souverainiste au Québec dans son propre compte-rendu. Le premier ministre a témoigné son soutien envers une Inde unie, insistant sur sa volonté de collaborer en matière positive à des enjeux d'intérêt commun, pouvait-on lire dans le compte-rendu diffusé par le bureau de Justin Trudeau. Le premier ministre a donné son avis concernant la liberté d'expression et l'importance du dialogue pour établir un terrain d'entente et mieux se comprendre. Les deux dirigeants ont échangé leur point de vue sur une diversité d'enjeux dont l'emploi chez les jeunes et l'investissement en vue d'une prospérité mutuelle. Ils ont également convenu de l'importance d'accroître la participation des femmes au sein de l'économie, peut-on lire dans le document. Les comparaisons entre le mouvement souverainiste québécois et le mouvement séparatiste sikh risquent de soulever la controverse au pays, d'autant plus que les tenants de l'option souverainiste au Québec ont toujours défendu leur option en prêchant le respect des règles de la démocratie, alors que le mouvement séparatiste sikh a eu recours à la violence pour faire avancer son option. Ce conflit aurait fait au moins 80 000 morts au cours des dernières années. Aujourd'hui, dernière étape de cette visite officielle, Justin Trudeau doit rencontrer le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, qui n'avait pas daigné l'accueillir au moment de son arrivée à l'aéroport samedi, signe du froid diplomatique qui persiste entre les deux pays. Et pour en finir avec la presse, un texte de Libertium, remplacement des CF-18, Boeing figure sur la liste des fournisseurs. La société Boeing figure sur la liste des fournisseurs admissibles qui pourront se disputer le contrat de remplacement de la flotte des chasseurs canadiens. Le géant américain de l'aérospatial maintient toutefois qu'il n'a pas encore décidé s'il allait participer au processus. Le gouvernement fédéral a dévoilé jeudi la liste des fournisseurs qui pourront obtenir le contrat pour fabriquer 88 appareils qui remplaceront les vieux CF-18. Les quatre autres entreprises sont Dassault Aviation, Airbus Défense, Saab et Lockheed Martin. Ces entreprises avaient jusqu'au 9 février pour indiquer au gouvernement si elles souhaitaient participer au processus, lequel devrait être lancé au début de l'année prochaine après plusieurs séances de consultation avec l'industrie. Si Boeing ne se retire pas du processus, son porte-parole Scott Day a indiqué qu'elle ne garantissait pas qu'elle soumettrait une offre. Boeing et ses super Hornets ont déjà été considérés comme les favoris pour obtenir le contrat, mais depuis la dispute commerciale entre Boeing et Bombardier, le gouvernement canadien a renoncé à son projet d'acheter les super Hornets et a plutôt entrepris des négociations pour l'achat de 18 chasseurs d'occasion de l'Australie.
M'échapper plus fort, le gros pitbull prend le micro. La jugulaire qui sort, monte les dents, j'amène à mort. Les langues sales ont les cheveux en bataille. Je pitch un botch dans la paille. Mon poing sa table, sauve les meubles, brasse la cage. En politique, j'y fais un bon ménage. Arrive à l'heure pour faire mon speech. Une rivière coule sous ma chemise. Je porte vos couleurs, un spot de rouille, une tache de sueur. Coupez mon doigt d'honneur. D'un grand parleur. Les langues sales auront les cheveux en bataille. Je pitch mon botch dans la paille. J'ai mis mon poing sur la table, lève debout, prends le micro, grimpe le son, un reverb est bon. J'ai l'impression d'aller au bat. L'impression d'aller enfin pouvoir me battre. Cassez votre beau grand sommeil. Un grand coup de gratte, je nettoie le sommet. M'échapper plus fort, le gros pitbull prend le micro. La jugulaire. Cheveux en bataille. Je pitch un botch dans la paille. J'ai mis mon poing sur la table. Ouais, un gros poing sur la table.
Ils s'appelaient les Frères Goyette et la chanson, c'est « J'appe fort, jamais ne mort ».
On passe aux pages du Devoir où Jérôme Cartillier signe un texte qui finalement ne pourrait concerner que les États-Unis. Il n'y a strictement nulle part ailleurs au monde où on envisage cette solution-là. Le texte, ça dit tout. Trump vante l'effet dissuasif d'enseignants armés dans les écoles. Le président américain Donald Trump a martelé jeudi sa conviction qu'armer des enseignants aurait un effet dissuasif sur les tireurs qui ciblent les écoles, réaffirmant sa proximité avec la NRA, le puissant lobby des armes. Dans une rafale matinale de tweets, le rafale est ici un mot remarquablement mal choisi, le locataire de la Maison-Blanche a défendu cette mesure très controversée et catégoriquement rejetée par nombre d'élus du Congrès, démocrates comme républicains. « Une école sans armes attire les méchants », a-t-il lâché, évoquant un peu plus tard, sans entrer dans les détails, de possibles bonus pour ceux qui porteraient une arme en salle de classe. L'équation est délicate pour le président septuagénaire, qui doit composer avec une forte mobilisation des lycéens à travers les États-Unis, déterminés à donner de la voix après ce nouveau drame qui a fait 17 morts et à ne plus se contenter des mines contrites et des pensées et prières des élus des deux bords. Après s'être posé mercredi lors d'un échange poignant avec des rescapés de la fusillade de Parkland en dirigeant à l'écoute de toutes les suggestions, M. Trump a insisté jeudi sur sa proximité avec la National Rifle Association, soulignant que ses dirigeants étaient de grands patriotes. La NRA est vent debout contre tout relèvement de 18 à 21 ans de l'âge légal pour acheter une arme, une piste désormais soutenue par M. Trump, en estimant que cela reviendrait à faire payer à des citoyens respectueux de la loi les actes malfaisants de criminels. Une excellente nouvelle pour les gens qui ont peu de moyens sur l'île de Montréal, c'est un texte de Jeanne Corriveau. Transport en commun, une tarification sociale est envisagée pour Montréal. La communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, qui regroupe les 82 municipalités de la région, étudiera la possibilité d'implanter une tarification sociale en transport en commun. Pour la mairesse Valérie Plante, qui préside la CMM, il s'agit d'un premier pas vers la réalisation d'une promesse faite en campagne électorale. Valérie Plante annonçait jeudi matin une allocution, à l'occasion d'une rencontre de la CMM. Elle en a profité pour annoncer que la commission du transport examinerait la tarification sociale. Lors de la course à la mairie de Montréal l'automne dernier, Valérie Plante s'était engagée à offrir un tarif réduit de 40 % à tous les Montréalais à faible revenu et la gratuité pour les enfants jusqu'à 12 ans et les usagers de plus de 65 ans. Sa promesse se limitait toutefois au territoire montréalais. Dans ce dossier-là, il faut aussi respecter chaque municipalité avec ses priorités, sa capacité de payer et la façon de le financer. Il faut que l'argent soit au rendez-vous, a expliqué la mairesse. Il y a 4 ans, Laval a instauré la gratuité pour les aînés. Ce fut tellement un énorme succès à Laval pour la qualité de vie des citoyens, des aînés, pour leur liberté, leur mobilité, que ce serait un souhait formidable que ça puisse s'étendre à toute la région métropolitaine, a commenté le maire Marc Demers. Lors du lancement de la mesure en 2014, Laval estimait à 600 000 $ le manque à gagner pour la Société de transport de Laval. Le maire de Mers reconnaît toutefois que le défi est beaucoup plus grand à Montréal qu'à Laval et qui compte davantage d'usagers pour son système de transport en commun. La CMM entreprendra l'élaboration de son plan stratégique en matière de mobilité, plan qui sera soumis à la nouvelle entité responsable du transport dans la région, l'Autorité régionale de transport de Montréal. Dans la grande région métropolitaine, la part modale du transport collectif stagne à 25 % alors que les objectifs de la CMM visent à la hausser à 35 % d'ici 2031 et à 3,8 % pour le vélo, a souligné Valérie Plante, qui, depuis son élection, se décrit comme la mairesse de la mobilité. Les maires croient qu'en faisant front commun, ils pourront mieux convaincre Ottawa et Québec de financer leurs projets. Christian Rioux est inquiet pour la francophonie. Alors, son texte qui nous vient de Paris, une francophonie en panne. Il y a un mois, on apprenait que le théâtre Le Tarmac allait fermer ses portes. La petite scène du boulevard Gambetta dans l'Est parisien est pourtant la seule en France et d'ailleurs dans le monde dont la vocation est essentiellement tournée vers la francophonie. C'est là que de jeunes artistes québécois ont pu entrer en contact avec des troupes africaines, des auteurs libanais ou des metteurs en scène palestiniens, nous expliquait récemment un jeune dramaturge québécois. Ce fait divers passé inaperçu ne serait pas si grave s'il n'était l'illustration du désarroi dans lequel se trouve la francophonie. Elle est loin, l'époque où le Québec et la France frappaient à la porte de l'UNESCO pour faire adopter une convention sur la protection de la diversité culturelle. Loin, l'époque où les premiers ministres français et québécois faisaient une mission commune au Mexique. Encore plus loin, l'époque où des artistes africains, français et québécois attiraient les foules sur les plaines d'Abraham. Depuis au moins deux décennies, on avait rarement vu la francophonie dans un tel état d'abandon. Ce n'est pourtant pas faute de locuteurs, puisque ceux-ci sont en recrudescence un peu partout dans le monde. En Afrique, dont le décollage économique n'est peut-être pas si éloigné, on se bouscule en effet pour apprendre notre langue. À Madagascar et au Togo, on manque cruellement de maîtres francophones. À Lomé, l'université accueille des fonctionnaires et des hommes d'affaires du Nigeria qui veulent commercer avec l'Afrique francophone. Même à Madrid, à Londres et à Rome, il est souvent plus facile pour un journaliste de faire des entrevues en français qu'à Toronto. Alors, où est le problème? Certains s'inquiètent des relents coloniaux qui subsisteraient dans la francophonie. Ils ont raison. Pourtant, les colonisés ne sont pas ceux que l'on croit. Ces colonisés, on les retrouve plutôt sur le plateau Mont-Royal et à Saint-Germain-des-Prés. Ils ne se baladent ni en boubou ni en sandales. Non, ils écoutent plutôt les rengaines anglicisées des Dead Hobbies et ne jurent que par la presse américaine. Quand ils n'affichent pas fièrement leur soumission à l'anglais en écrivant sur la tour Eiffel « Made for sharing ». Une courte pause et on vous revient immédiatement ensuite avec les pages du Journal de Montréal.
Soleil suffit à cette fleur que je suis. Un peu de soleil, celui sur lequel ton œil reluit. Suffis à la fleur fanée.
Mais un peu de soleil, voici, pour la voix se transformer en rieuse et bien jolie.
Ah oui, j'aime ton soleil, Daniel Bélanger.
Journal de Montréal, où Caroline Lepage nous parle de parents qui ont une solution pour s'occuper de leur fille handicapée, mais qui sont en butte à Immigration Canada. Personne pour s'occuper de leur fille handicapée cet été, c'est le titre. Ça nous vient de Drummondville. Des parents incapables de trouver quelqu'un pour s'occuper de leur fille atteinte de paralysie cérébrale durant l'été lancent un cri du cœur pour que son oncle et sa tante de Cuba puissent venir les aider. Chantal Gaudreau et son conjoint, José Luis Pietro Diaz, ne peuvent se permettre de cesser de travailler pendant les vacances scolaires de leur fille Jessica Maria Prieto, atteinte de paralysie cérébrale sévère. Or, ils sont incapables de trouver quelqu'un pour s'en occuper. Durant certains étés, ils l'ont envoyé dans sa famille paternelle à Cuba, mais les parents et la petite s'ennuient pendant 2 mois et c'est devenu compliqué de voyager avec elle en raison de tout l'équipement à transporter. Depuis 3 ans, ils ont plutôt tenté de faire venir son oncle, sa tante et leur enfant de Cuba pour en prendre soin. « Ils savent tous les exercices à faire avec elle », dit Chantal Gaudreau. Or, malgré plusieurs demandes, Immigration Canada refuse les demandes de visa. Il serait beaucoup plus simple et agréable si un membre de la famille, en l'occurrence son oncle, qui réside à Cuba, puisse obtenir un visa de tourisme canadien afin de pouvoir offrir son aide et soutien à la famille au Québec, explique le pédiatre Ruben Arevalo dans une lettre au ministère de l'Immigration. Pourtant, la demande de visa de résident temporaire aux membres de la famille cubaine vient encore d'être refusée. Selon le ministère, certaines personnes ayant obtenu un VRT cherchent à rester au Canada, même une fois leur visa échu. « Je suis prête à mettre ma maison en garantie pour assurer qu'ils ne resteront pas ici. C'est inhumain, illogique et discriminatoire de supposer qu'ils ne partiront pas », dit celle qui a transmis au ministère une pétition d'environ 700 signatures. Connaissez-vous le programme PERE? Eh bien, sachez que ça peut sauver des vies, ce que nous rapporte Frédéric Giguère. Une femme a été sauvée grâce à des appels automatisés. Une femme de 83 ans considère qu'elle doit la vie à un programme d'appel de sécurité automatisé qui lui a permis d'avoir de l'aide rapidement après avoir été victime d'un AVC le mois dernier. Depuis qu'elle a perdu l'amour de sa vie à l'hiver 2016, Colombe Vanier vit seule dans son condo de Sainte-Thérèse sur la rive nord. « Il me manque énormément », confie la veuve, les yeux dans l'eau. Bien qu'elle soit engagée dans plusieurs activités communautaires et qu'elle ait de bons amis, rares sont ceux qui prennent le temps de lui téléphoner. C'est pour cette raison que la femme, qui n'a jamais eu d'enfant, est à fleur de peau lorsqu'elle parle de la journée du 13 janvier dernier. Comme elle le fait chaque jour, Mme Vanier s'est levée autour de 7h30 et s'est dirigée vers la cuisine afin de préparer le petit déjeuner. Elle n'a pas eu le temps de s'y rendre puisqu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Lors de sa chute, elle s'est fait les 2 côtes, ce qui l'a empêchée de se relever. Autour de 8h, le téléphone a sonné. C'était le premier appel automatisé quotidien du programme PERE, un service offert gratuitement aux aînés québécois. Comme elle n'a pas répondu au premier coup de fil, 2 autres ont suivi. Toujours pas de réponse. C'est à ce moment que le voisin de la dame, qu'elle avait inscrit comme un répondant et qui possède une clé de son condo, a été contacté par un préposé du 911. Ce dernier a découvert Mme Vanier souffrante et couchée au sol peu avant 9 heures. « Ça m'a sauvé la vie », souffle-t-elle. « J'aurais pu rester à terre longtemps. En plus, j'ai été traitée rapidement. On m'a vite retiré un caillot au cerveau et j'ai moins de séquelles aujourd'hui. » Même si elle était impatiente de recevoir de l'attention médicale, Colombe Vanier était rassurée lors de son attente de moins d'une heure et demie. « J'ai entendu les trois appels, je savais que quelqu'un allait venir assez rapidement », se souvient-elle. C'est l'agent Éric Huard de la Régie intermunicipale de police de Thérèse de Blainville, voilà, qui a convaincu l'octogénaire de s'inscrire au programme PER lors d'une visite de routine en 2016. Alors, le programme PER, c'est actuellement 6000 personnes inscrites aux appels de sécurité. 2500 personnes, elles, sont appelées chaque jour pour qu'on leur rappelle de prendre leurs médicaments. Et ça permet de sauver 100 personnes par année. José Legault, éditorialiste au Journal de Montréal, se penche sur le retour de Jean-Martin Haussan. Le retour de Jean-Martin Haussan réussira-t-il à refaire du Parti québécois une solution de rechange possible au PLQ et à la CAQ? La question est tentante, mais elle rate l'essentiel. La vérité est que le PQ n'en est plus à se chercher un énième sauveur. Troisième dans les sondages, son chef Jean-François Lisée a compris qu'il devait oser l'inattendu. Son virage favorable à des services publics forts lui permet déjà de se démarquer plus clairement du PLQ et de la CAQ. Idem pour la nomination de Véronique Yvon comme vice-chef et la visibilité qu'il accorde à son équipe. Bref, le chef péquiste démontre un niveau d'humilité qu'on ne lui connaissait pas. Le retour de l'ex-député péquiste et l'ex-chef fondateur d'Option nationale s'inscrit dans la même démarche. À 20 % d'appui, M. Lisée n'a pas le luxe de se passer des meilleurs éléments disponibles. M. Haussan en fait partie. L'héritier politique de feu Jacques Parizeau, Jean-Martin Haussan, est le pédagogue d'une souveraineté moderne le plus prometteur de sa génération. À Option nationale, il avait réussi à mobiliser des milliers de jeunes professionnels. Cette carte manque gravement à M. Lisée. Le PQ s'étiole en fait depuis le dernier référendum. En entrevue chez Gravel le matin, Lisette Lapointe, épouse et veuve de M. Parizeau, rappelait tout le dommage fait par ce long silence du PQ sur son option, sauf Noptel pour l'épisode Pierre-Carl Péladeau. En cela, le vrai problème n'est pas le refus de M. Lisée de s'engager à tenir un référendum dans un premier mandat. Il est dans son refus de consacrer des fonds publics à sa préparation. Alors comment concilier l'attentisme de Lisée avec la clarté d'Haussan? Par un compromis. Si le PQ est élu, M. Haussan aurait comme mission de mettre à jour les études sur l'indépendance, à même les fonds publics, mais sans que ceux-ci servent à promouvoir l'option. Cela convaincra-t-il des souverainistes à voter PQ? À suivre. L'arrivée de M. Haussan est aussi une arme à deux tranchants. L'espoir des libéraux est que le PQ remonte juste assez pour bloquer la voie à la CAQ, tout en les laissant se faufiler entre les deux. Or, la politique n'est pas une science exacte. Les calculs sont une chose, la réalité en est souvent une autre. C'est presque devenu une réalité traditionnelle au Québec. La neige fond, les rivières débordent, et bien c'est arrivé à Saint-Pie-de-Bagotte, qui n'est pas une zone inondable pourtant. Antoine Lacroix nous en parle. Des citoyens de Saint-Pie, près de Saint-Hyacinthe, qui croyaient vivre dans une zone non inondable, ont vu leur sous-sol se remplir d'eau hier après que la rivière Noire est sortie de son lit. Quand tu vis dans une zone supposément non inondable, ce n'est pas quelque chose dont tu te soucies. C'est ce que la ville l'avait dit. Maintenant, on va vraiment guetter la rivière l'hiver. Laisse tomber Hugo Lucier, constatant les dégâts dans le sous-sol de sa maison qu'il venait tout juste de finir de construire. Un peu avant 8 heures hier, le niveau de la rivière est monté très rapidement pour finalement inonder près d'une dizaine de résidences et paralyser la rue Notre-Dame durant plusieurs heures. D'immenses blocs de glace provenant du cours d'eau ont jonché la rue et bloqué la circulation jusqu'en après-midi. Le courant était tellement fort et le niveau d'eau si haut que même la voiture de M. Lucie a été traînée sur une cinquantaine de mètres. Ça a monté jusqu'à presque 7 pieds dans mon sous-sol très rapidement, indique M. Lucie. Une fenêtre a brisé et plusieurs blocs de glace sont entrés. Tout est fini dans le sous-sol. C'est irréel. Même son de cloche pour un autre résident du secteur qui n'avait jamais vu pareille situation survenir depuis qu'il habite le bord de la rivière il y a maintenant 30 ans. Tout a arraché dans le sous-sol. C'est le chaos total. Déjà, les assurances me disent qu'elles ne vont pas payer parce que ce n'est pas quelque chose qu'elles couvrent. Si les sinistrés au printemps ont eu le droit à de l'aide financière, je m'attends à ce que moi aussi j'y ai droit. Ce serait juste, fait valoir François Dubé. Découragé devant l'étendue des dégâts, Hugo Lucier a eu la même réflexion. Qui va payer pour tout ça? J'ai hâte d'avoir des nouvelles des autorités pour commencer à ramasser les dégâts, dit-il. Selon la direction de la sécurité civile de la Montérégie, 9 résidences ont été inondées et 50 autres ont été menacées par les eaux hier, forçant l'évacuation de 125 personnes. Ce sera à cause de la formation d'un embâcle et la saison ne fait que débuter. Encore une pause et cette fois au retour, ce sont les quotidiens régionaux qui accapareront notre attention. Voilà.
Chaque jour que ton amour est sans détour, un trésor rempli de lumière se libère. Et les étoiles et le matin et le mirage d'être bien et la mélodie du bonheur. Et
Mara Tremblay et le printemps des amants.
Une nouvelle un peu rétro, en fait, qui nous vient de Québec, puisque aujourd'hui, on en parle presque plus. Je dirais même que ça n'existe plus. Des secrétaires, pas des secrétaires généraux, pas des cadres supérieurs, non. Vous savez, c'est très gentilles personnes, très souvent des femmes, admettons-le, qui s'occupaient des tâches administratives avant que tout le monde ait sa tablette, son ordinateur, etc., etc., et qui sont depuis devenus des spécialistes en bureautique, des adjoints administratifs, voire des personnes intouchables, en tout cas, personne qui touche à la cafetière. Voilà. Mais à Québec, on lance une offensive pour les recruter. Fonction publique québécoise, secrétaire recherchiste, que rapporte Gilbert Leduc dans les pages du Soleil. Moche, un boulot d'agent de secrétariat dans la fonction publique, malgré la sécurité d'emploi pour certaines et un régime d'avantages sociaux pas piqué des verres. Ennuyant, répétitif, sans trop de possibilités d'avancement. L'appareil gouvernemental et ses artisans veulent fermer le clapet à tous les pisse vinaigres qui prétendent que le gazon est plus vert du côté du secteur privé. Comment? En regroupant pendant 2 jours au Centre des congrès de Québec des agentes de secrétariat provenant de la 60aine de ministères et d'organismes, la fonction publique québécoise veut séduire les chercheurs d'emploi ou ceux qui souhaitent améliorer leur sort. Vendredi de 13h à 20h et samedi de 10h à 16h, le salon du recrutement en secrétariat battra son plein. Une première. Nous donnons la parole aux agentes de secrétariat afin qu'elles expliquent leur rôle et les opportunités de grandir dans l'appareil gouvernemental, explique Julie Martel, conseillère à la promotion des emplois au Centre des services partagés du Québec. Les avantages de travailler dans la fonction publique sont méconnus. Qu'il suffise de parler de conciliation de travail et vie personnelle, de développement professionnel ou d'aménagement du temps de travail, que ça soit dans des champs aussi variés que la santé, l'éducation, la sécurité publique ou le développement durable, nous avons l'opportunité de collaborer à des projets qui peuvent avoir une portée significative sur la société québécoise. Bien sûr, les nouvelles venues ne décrocheront pas toutes un poste permanent au moment de leur embauche. On ne laisse jamais partir une bonne ressource. Le poste régulier peut arriver très rapidement, étant donné qu'il y a beaucoup de postes qui se libèrent en raison des départs à la retraite. Actuellement, la fonction publique a plusieurs postes d'agent de secrétariat à pourvoir. Je ne peux pas vous donner un nombre précis. Nos besoins sont récurrents, explique Julie Martel. L'appareil gouvernemental n'évolue pas sur une autre planète. La rareté généralisée de main-d'œuvre n'épargne personne. La situation est préoccupante dans le cas des agentes de secrétariat. Directeur des études au Collège Barthes, Louis Morneau le confirme, le nombre de finissantes est insuffisant pour répondre à la demande. Les inscriptions en bureautique sont à la baisse, c'est le cas chez nous. C'est le cas aussi dans les établissements publics. Et ne me posez pas la question à savoir si nos finissantes trouvent facilement un emploi, c'est le cas, et rapidement à part ça. Julie Martel signale que, dans le cas des agentes de secrétariat, les besoins se manifestent dans tous les secteurs d'activité, notamment du côté des secrétaires juridiques et des adjoints à la magistrature. Du côté de Gatineau, le droit, lui, se penche sur la course à la chefferie du Parti conservateur ontarien, puisque Mulroney aurait demandé à Brown de retirer sa candidature, ce que rapporte la presse canadienne. Caroline Mulroney, qui souhaite être élue chef de l'opposition en Ontario, demande à Patrick Brown d'abandonner la course à la direction du Parti progressiste conservateur. Madame Mulroney explique que M. Brown n'a pas sa place dans la course. Patrick Brown dirigeait le parti jusqu'à ce que des allégations d'inconduite sexuelle le forcent à quitter son poste le temps de rétablir sa réputation. Dans une déclaration publiée sur Twitter, Caroline Mulroney a écrit que les conservateurs avaient besoin d'un chef qui mettra le parti avant ses besoins individuels. Elle demande à ses autres adversaires, Christine Elliott, Doug Ford et Tanya Granick Allen, de se joindre à elle pour demander à M. Brown de quitter la course. Patrick Brown avait quitté la direction du parti à la fin janvier après que CTV News eut rapporté des allégations d'inconduite sexuelle à son endroit, des accusations qu'il nie férocement. Ces allégations n'ont pas été vérifiées par la presse canadienne. Le politicien de 39 ans de la ville de Barrie s'est lancé dans la course pour récupérer son poste vendredi et sa campagne a reçu le feu vert d'un comité du parti mercredi. À Sherbrooke, c'est la docimologie qui retient l'attention. Qu'est-ce que la docimologie, allez-vous me dire? Eh bien, c'est la science qui étudie l'évaluation des enseignements. Bref, on parle de notes de passage. La SEE dénonce le gonflement des notes à 60 %, un texte d'Isabelle Pion. Selon Richard Bergevin, président du SEE, le syndicat, les évaluations sont la responsabilité des enseignants et il faut respecter leur autonomie professionnelle. Ça ne doit pas être une mécanique informatique qui fait augmenter la note. le syndicat de l'enseignement de l'Estrie reproche à 3 écoles secondaires de la commission scolaire de la région de Sherbrooke d'arrondir à la hausse les notes des élèves qui sont tout près de la note de passage, autour de 58 et 59. Le président du SEE précise qu'il blâme surtout le ministère de l'Éducation qui envoie des messages ambigus par rapport à cette pratique. Les écoles secondaires qui ont opté pour cette pratique sont l'École internationale du Phare, le Monarque, anciennement Val-du-Lac, et Mitchell-Montcalm. Richard Bergevin fait valoir que le régime pédagogique est très clair sur la note de passage, celle-ci est de 60. Les évaluations sont la responsabilité des enseignants, note-t-il, en rappelant qu'il faut respecter leur autonomie professionnelle. Ça ne doit pas être une mécanique informatique qui fait le boulot. Il fait du même coup valoir qu'on ne peut pas se substituer à la loi sur l'instruction publique. À ses yeux, il faut faire une distinction entre le traitement statistique qui peut être fait pour un examen unique du ministère, qui est une situation particulière, et les nombreuses évaluations des élèves qui s'étalent sur environ 10 mois. La commission scolaire fait valoir de son côté qu'elle a demandé un avis permettant cette pratique. On a expliqué au personnel enseignant qu'avec le système informatique GPI qui gère les résultats et les bulletins, il y a un processus d'arrondissement des résultats qui peut être au désavantage des élèves. La marge d'erreur, on parle grosso modo de 2%, explique le directeur de l'École internationale du Phare, Patrick Levasseur, en ajoutant que la position était unanime au sein de son école. À Chicoutimi, c'est une histoire scabreuse qui fait la une du quotidien. Laura Lévesque donc signe un texte intitulé « Coupable d'avoir agressé sa belle-fille avec un retard mental ». Un homme de Dolbeau-Mistassini a admis jeudi au palais de justice de Chicoutimi avoir agressé sexuellement sa belle-fille qui présente un retard intellectuel. Le beau-père, qui a plaidé coupable devant le juge Pierre Lortie, devrait écoper d'une peine d'emprisonnement de quelques années. Le quinquagénaire a commencé des attouchements lorsque la fille de sa conjointe avait 11 ans. Les derniers gestes reprochés remontent à l'automne 2015 alors que la victime avait 19 ans. Son âge mental est toutefois évalué à 8 ans selon les informations fournies par le ministère public. L'individu aurait sévi à 2 reprises pendant la période d'âge mineur et à 3 occasions à l'âge adulte. Ces événements se sont produits dans la maison familiale de Chicoutimi en cachette de la mère. La représentante du ministère public, Maître Karen Inkel, a profité de l'occasion pour rappeler à l'homme la signification du consentement. « Le silence n'est pas un accord », a-t-elle insisté. « Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on donne notre consentement. Se laisser faire, ce n'est pas un consentement. » L'individu devait présenter une défense 7 semaines au palais de justice de Chicoutimi, mais il a finalement décidé de plaider coupable. Un procès de 2 jours avait été fixé. La victime n'a donc pas eu à témoigner. La victime était prête à témoigner, même si c'est toujours mieux si elle n'a pas à le faire, a mentionné Maître Inkel. L'homme a été appréhendé à la suite d'une dénonciation venant d'une tierce personne. La jeune femme a parlé de ses relations avec un enseignant qui a ensuite alerté la mère et les autorités. Le cas de cette famille du Saguenay rappelle la vulnérabilité des personnes handicapées en matière d'agression sexuelle. Des études démontrent d'ailleurs que les personnes présentant une déficience intellectuelle sont plus à risque d'être agressées sexuellement. De tels gestes sont d'ailleurs sévèrement punis par les tribunaux. L'individu doit se présenter à nouveau devant le juge Pierre Lortie le 2 mars pour recevoir sa sentence. D'un commun accord, son avocat, Maître Luc Tourangeau et Maître Karen Henkel, devraient demander une peine de prison de 3 années. À Granby, les citoyens sont prêts à monter aux barricades et la cause de cette quasi-révolte, eh bien, le salaire des élus. Augmentation de salaire des élus, appel à la mobilisation, ce dont nous parle Marie-France Létourneau dans La Voix de l'Est. Le regroupement de citoyens du Conseil du quartier numéro 2 appuie l'initiative de la Grandbienne Jacinthe Deslauriers qui a mis une pétition en ligne pour dénoncer la hausse du salaire des élus. Il invite aussi la population à se présenter en grand nombre lors de la prochaine séance du Conseil municipal le 5 mars. Il ne faut pas se fier juste à la pétition. Même s'il y a 1500 signatures, si la salle est vide le 5 mars, ça n'aura pas un impact aussi fort que si les gens se déplacent à l'hôtel de ville. Ce qu'on souhaite, c'est que la salle du Conseil, les corridors et le hall d'entrée soient pleins de monde, a lancé jeudi le président du Conseil de quartier, Richard Dubé. Celui-ci insiste toutefois sur le fait qu'il souhaite que les représentations des citoyens se fassent avec civisme et respect. Il ne faut pas reproduire le scénario de 1990 où une manifestation musclée menée entre autres par des représentants syndicaux en réaction à la hausse du salaire des élus de l'époque avait nécessité l'intervention des policiers. L'ex-syndicaliste, aujourd'hui conseiller municipal, Robert Vincent, y avait pris part, a récemment rapporté La Voix de l'Est. Contrairement à il y a près de 30 ans où ils ont réussi à renverser la décision par la force, nous, on veut le faire pacifiquement, sans débordement. C'est très important, affirme M. Dubé. La Grand-Bienne a lancé une pétition en ligne à la fin de la semaine dernière, non pas parce qu'elle s'oppose à la révision du salaire des élus, mais parce qu'elle juge trop élevées les augmentations annoncées, soit de 15 % pour le maire et de 17,5 % pour les conseillers. Et son opinion semble partagée. Jeudi, en fin de journée, sa pétition avait recueilli plus de 1100 signatures. D'abord fixée à 1000 signatures, l'objectif a été revu à 2000 au cours de la semaine. Je suis très contente parce que je n'étais pas certaine de la réponse des citoyens. Parfois, on peut ne pas être d'accord, mais la vie va tellement vite que ce n'est pas tout le monde qui prend le temps de signer ce type de pétition, a relevé Mme Deslauriers. Encore une pause, vous me direz que c'est récurrent, et on vous revient avec les nouvelles du sport et de la culture.
Stadé sur le bord de la traque, là où le train vire de bord. Les cycles barres et c'est le rack, cherche encore la clé pour dévirer le décor. Qu'est-ce que ça prend? Un abri contre le vent, un piton au feu pour me réchauffer le sang. Quand le grain du bois s'écarte, puis que ton navire prend l'eau. Pour mettre de la colle dans le crack, puis écraser le grand vide dans un étau. Qu'est-ce que ça prend? Un abri contre le vent, et puis ton feu, pour me réchauffer le sang. L'orgueil du monde qui frappe, à grands coups, c'est pas moi qui a tort. La douleur trouve sa plate, parce que c'est toujours les plus salauds, les plus forts. Qu'est-ce que ça prend? Un abri contre le vent, puis ton feu, pour me réchauffer le sang. Qui te slack, puis d'un coup tu respires mieux. Mais quand t'as le fouet qui claque, faut que tu rentres dans le rang parce que t'es un peu peureux. Qu'est-ce que ça prend? Un abri contre le vent, et puis ton feu pour me réchauffer le sang. Qui débarque, c'est ta chance qui prend le bord. Reste à ton tour au bat, puis tu swings ta rage dans le bar sur un fort. Qu'est-ce que ça prend? Un abri contre le vent, et puis ton feu pour me réchauffer le sang. Un abri contre le vent, puis ton feu pour me réchauffer le sang. Un abri contre le vent. pit en feu pour me réchauffer le sang.
David Portelance et sa chanson « Un abri contre le vent » tirée de son album « Un abri contre le vent ».
Culture, et dans ce cas précis, culture et sport, puisque le sport, c'est aussi une forme de culture, du moins quand on passe pas un micro devant un joueur de hockey. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit en Corée du Sud? Sébastien Saint-Onge fait pour nous une revue de divers textes de la presse canadienne. La Canadienne Caitlin Osman de Terre-Neuve-et-Labrador s'est assurée la médaille de bronze en patinage artistique, offrant une 27e médaille au Canada, une de plus que les 26 obtenues à Vancouver en 2010. Osman, toute souriante après sa performance, n'avait pas conscience de l'importance de sa médaille de bronze. Elle n'a commis qu'une légère faute dans le programme libre aux Jeux olympiques de Pyeongchang jeudi. Son pointage de 152,15 lui a permis d'obtenir un score cumulatif de 231,202 points. Elle a notamment été parfaite sur les combinaisons de sauts triple flip, triple boucle piqué ainsi que double axel, triple boucle piqué. La Russe Alina Sazagitova, âgée de seulement 15 ans, a obtenu un total de 239,57 points pour enlever la médaille d'or. Doublé canadien en ski cross féminin. Les Canadiennes ont dominé la finale du ski cross pour réaliser un doublé avec Kelsey Serrois en or devant la Québécoise Brittany Phelan jeudi en Corée du Sud. Si Serrois, âgée de 28 ans et médaillée d'argent il y a 4 ans, s'est rapidement détachée pour gérer tranquillement son avance, la bagarre a fait rage derrière. Phelan a finalement profité d'un virage pour coiffer la médaillée de bronze Fanny Smith et Sandra Naislund. La médaille d'or de Serrois était la 10e du Canada à Pyeongchang. La Canadienne médaillée d'or de Sochi, Marielle Thompson, a subi l'élimination après une chute dès la première vague des huitièmes de finale au parc à neige Phoenix, tandis que sa coéquipière India Charette a chuté lourdement à mi-parcours avant d'être évacuée en civière. Curling, le Canada privé d'une médaille pour la première fois en 20 ans. Il n'y aura aucune équipe du Canada sur le podium en curling aux Jeux olympiques de Pyeongchang. L'Albertain Kevin Coe s'est incliné 7-5 face au Suisse Peter De Kroos lors du match pour la médaille de bronze en curling masculin vendredi. Rachel Oman n'était pas parvenue à se qualifier pour la ronde des médailles en curling féminin. C'est la première fois depuis que le curling a fait son retour aux Jeux olympiques d'hiver en 1998 qu'aucune équipe canadienne ne monte sur le podium lors des tournois masculins et féminins. John Morris et Caitlin Laws ont toutefois remporté la médaille d'or en double mixte au début des Jeux de Pyeongchang. Patinage longue piste, Saint-Jean termine 11e au 1000 mètres, Dubreuil 25e. Le Néerlandais Kjell Nuss a coiffé le Norvégien Håvard Lorentzen par un poil et a remporté l'épreuve de 1000 mètres en patinage de vitesse longue piste vendredi aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Alexandre Saint-Jean de Québec a pris le 11e rang avec un chrono d'une minute et 9,24 secondes. Vincent Dehêtre de Cumberland en Ontario a suivi au 19e échelon en 1 minute 9 secondes et 79 centièmes, tandis que Laurent Dubreuil de Lévis a terminé en 25e position à 1 minute 10 secondes et 3 centièmes. Hockey féminin, Jocelyne Larocque regrette d'avoir retiré sa médaille d'argent. Au lendemain d'une décevante défaite 3-2 en tir de barrage contre les États-Unis en finale du tournoi de hockey féminin, la défenseure canadienne Jocelyne Larocque a admis qu'elle regrettait avoir retiré sa médaille immédiatement après qu'on la lui ait remise. Par le biais d'un communiqué publié par Hockey Canada, Larocque a tenu à s'excuser au Comité international olympique, à la Fédération internationale de hockey sur glace, au comité organisateur des Jeux, au Comité olympique canadien, à ses coéquipiers et à ses partisans. Et finalement, une athlète russe prise pour dopage en bobsleigh. La bobeuse russe Nadezhda Sergeeva, qui a terminé 12e de la compétition mercredi, a été contrôlée positive à une substance illicite durant les Jeux de Pyeongchang, a annoncé vendredi la Fédération russe de bobsleigh. Selon une source proche du dossier interrogée par l'AFP, le produit incriminé est la trimétazidine, médicament utilisé pour prévenir les angines de poitrine ou des baisses de l'acuité visuelle. Un premier cas de dopage concernant un sportif russe a été annoncé en début de semaine. Le curleur russe Alexander Kruchelnitsky, médaillé de bronze en curling mixte, a été contrôlé positif au meldonium. La médaille de bronze mixte, gagnée avec son épouse Anastasia Brisgalova, leur a été retirée et devrait revenir à la Norvège, initialement quatrième. Et puisque j'en suis à vous parler de la Norvège, ce merveilleux petit pays de 5 millions d'habitants seulement, eh bien sachez qu'il domine au tableau des médailles, comme il le fait d'habitude d'ailleurs, suivi de l'Allemagne, puis du Canada, des États-Unis, des Pays-Bas, de la Suède, de la France, de l'Autriche, de la Corée et finalement en dixième position de la Suisse. Festival Montréal en lumière, que faire? Eh bien, Bruno Lapointe du Journal de Montréal vous suggère sept incontournables du festival. Le Festival Montréal en lumière bat son plein jusqu'au 4 mars, mais avec quelques 200 spectacles présentés dans 28 salles à travers la métropole, par où commencer? Le journal vous propose ses rendez-vous incontournables de la 19e édition. En premier lieu, Geoffroy. Près d'un an après avoir lancé Coastline, son premier effort, Geoffroy a promené sa pop jusqu'aux États-Unis et au Canada anglais. Mais vendredi soir, le chanteur sera de retour à Montréal pour prendre d'assaut la scène du Club Soda. Et comme il a déjà annoncé avoir commencé à travailler sur de nouvelles pièces, on aura peut-être l'occasion d'y entendre quelques titres inédits. Donc c'est vendredi soir au Club Soda. Théâtre, le chemin des passes dangereuses. 20 ans après sa création originale, l'œuvre de Michel-Marc Bouchard reprend l'affiche au Théâtre Jean Duceppe. Cette fois-ci, c'est au tour de Maxime Denommé, Félix-Antoine Duval et Alexandre Goyette de se glisser dans la peau des trois frères confrontés à de vieux secrets de famille à la suite d'un accident de la route. Depuis 1998, cette pièce de théâtre a été jouée dans le monde entier et traduite en plusieurs langues, et c'est jusqu'au 3 mars au Théâtre Jean Duceppe. En troisième lieu, Arnaud Soli. Le nom d'Arnaud Soli ne vous dit rien? Vous avez pourtant probablement vu sa célèbre vidéo où l'humoriste reprenait l'été dernier le hit Despacito à l'aide d'une flûte nasale. C'est désormais l'occasion de découvrir un autre pan de son univers, le stand-up, avec son premier one-man show présenté sur la scène du Lion d'Or, donc 3 mars au Lion d'Or. The Franklin Electric. Applaudie tant au Canada qu'en Europe et en Océanie au cours de la dernière année, la formation montréalaise de Franklin Electric est de retour au Bercail. John Matt et sa bande viendront présenter les pièces de Blue Ceilings, leur plus récent album paru l'an dernier. Vendredi soir au MTELUS, Isabelle Boulay. L'attente tire à sa fin pour les fans d'Isabelle Boulay. La diva russe s'apprête à présenter pour la première fois sur scène les pièces de son dernier album, En vérité, lancé au printemps dernier. Il y a également fort à parier qu'elle profitera de son passage sur la scène du théâtre Maisonneuve pour revisiter Je t'oublierai, Le Soul, Entre Matane et Bâton Rouge et autres grands succès qui ont marqué sa carrière. 1er mars donc au théâtre Maisonneuve. Les Respectables. La formation Les Respectables soulignera mardi soir ses 25 ans de carrière, ce qui nous fait tous vieillir ici, au Théâtre Outremont. Pour l'occasion, le trio revisitera son propre répertoire en plus de puiser dans celui des Rolling Stones. Les Hola Décadence, Ma vie à l'heure et Amalgame de Sébastien Plante et sa bande se mêleront ainsi aux Satisfaction et Back in Black de Mick Jagger en compagnie sur une même scène. Et c'est donc le 27 février au Théâtre Outremont. Finalement, Patrice Michaud, sacré interprète masculin au dernier gala de la disque, Patrice Michaud profitera de Montréal en lumière pour donner l'ultime représentation à Montréal de sa plus récente tournée. Au menu des pièces de son album Almana, bien sûr, mais l'auteur-compositeur-interprète prévoit pimenter sa soirée au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts grâce à l'apport de quelques surprises. Et ça se tient donc le 2 mars au théâtre Maisonneuve.
Tu avais les ongles longs, j'avais les ondes courtes, toi l'île et moi le littoral. On a fait sauter le pont, croiser nos langues mortes, nos mécaniques générales. Tu disais, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Comme si on vidait la banque, cette impression de manque. Icar cherche son parachute. Ma bouche est orpheline, ta peau de mescaline. Reste là encore quelques minutes pour me dire, oh mon bel ami, oh mon âme, je crie, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon âme, je crie, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Oh mon belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? J'ai pris ton cœur de corail. C'est vrai, je me suis fait mal. Mais tu restes mon trésor national.
Patrice Michaud et sa chanson Mécanique générale.
On continue en culture pour vous parler cette fois-ci de Trois-Rivières. Trois-Rivières où le satyre aura une nouvelle vie. Qu'est-ce que le satyre, me direz-vous? C'était un cabaret spectacle. Eh bien, ça va redevenir une salle de spectacle. François Aude nous en parle dans les pages du Nouvelliste. La salle qui a longtemps abrité le Maquisard et plus récemment le cabaret spectacle Le Satyre retrouvera sa vocation de salle de spectacle dès l'été 2018. L'homme d'affaires trifluvien Danny Bruno et l'artiste de scène Martin Fontaine sont les deux partenaires dans ce projet qui va miser en grande partie sur la formule des soupes et spectacles dont Fontaine va assumer la direction artistique. Le nom de la nouvelle salle n'est pas encore connu. Un bail à long terme, 15 ans, a été officiellement signé jeudi par le duo d'entrepreneurs. La salle va faire l'objet d'importantes rénovations pour y installer un nouveau système de son et aménager le balcon en une salle VIP pouvant accueillir une quarantaine de personnes dans le plus grand confort. Pour ce qui est du parterre, il sera aussi rénové pour être en mesure d'accueillir environ 170 personnes autour de tables rondes à la façon d'un cabaret. Dans une autre configuration, on estime pouvoir accueillir près de 300 personnes debout pour certains spectacles, se prêtant mieux à cette formule. Les nouveaux locataires de la salle comptent présenter des spectacles pendant une quarantaine de semaines par année, à raison d'un minimum de 2 représentations par semaine. Martin Fontaine devrait lui-même être au cœur de la programmation, mais pas forcément dans la peau d'Elvis Presley. Il compte participer à 85% des spectacles qui seront présentés, mais surtout comme interprète de musique américaine, blues, soul, rhythm and blues, country, etc., ce qui n'exclut pas le répertoire du King à l'occasion. À ce stade-ci, il est difficile pour les promoteurs de prédire à quel moment ils seront en mesure d'ouvrir leur nouvelle salle, mais ils espèrent d'être en mesure de le faire dès la fin de l'été ou tout au moins au début de l'automne. Un des attraits de la salle, c'est qu'une cuisine y a été aménagée par les derniers locataires, de telle sorte que tout est déjà organisé pour permettre la présentation de soupes et spectacles. Puisque Danny Bruno est déjà à la tête de la maison de débauche, il peut d'ores et déjà affirmer que la cuisine qui y sera servie sera dans le même style que ce qui se fait dans son restaurant. On veut d'abord faire connaître la salle comme salle de spectacle, mais c'est sûr qu'à la base, c'est le concept des soupes et spectacles qui va prédominer, d'indiquer Martin Fontaine. On va d'abord prioriser des revues musicales. Je connais bien le concept pour l'avoir connu au Capitole à Québec et ailleurs au Québec. Et je sais que ça va bien fonctionner. Évidemment, on va s'ajuster en fonction de la demande du public, mais ce que je peux dire dès maintenant, c'est qu'on va présenter presque exclusivement des spectacles originaux. Fontaine confirme qu'il avait les yeux sur cette salle depuis longtemps et que c'est quand elle s'est libérée au cours de la dernière année que son projet de se lancer en affaires a repris de l'actualité. Ça fait 8 mois qu'on travaille là-dessus, Danny et moi. En lui, j'ai trouvé l'homme d'affaires dont j'avais besoin pour m'aider à mettre tout ça sur pied. C'est un gars qui a une vision et de la rigueur. J'avais fait des démarches pour louer la salle il y a quelques années et ça n'a pas abouti. J'ai compris que le timing n'était pas bon. Là, il est parfait. Ça fait une bonne dizaine d'années que je me dis que cette salle est parfaite pour le concept dont je rêve. On vise une clientèle âgée entre 35 et 75 ans. À cause de sa situation exceptionnelle entre Montréal et Québec et jouissant d'une effervescence extraordinaire, Trois-Rivières est l'endroit idéal pour attirer les gens d'un peu partout. Notre produit va être exclusif et on va occuper une place unique dans le marché. Notre but, c'est de compléter ce qui se fait déjà ici. Allez, je peux pas résister, je vous ramène aux Olympiques pour vous parler d'une skieuse tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle pour ce qu'elle fait, non, pour ce qu'elle ne fait pas. En fait, il s'agit d'une Américaine qui skie pour la Hongrie. Je vous la présente, ou plutôt Caroline G. Murphy le fait dans les pages du Journal de Montréal. Cette skieuse s'est rendue aux Olympiques en ne faisant absolument rien. Et l'Internet ne sait pas s'il doit rire ou être vraiment fâché. Préparez-vous à perdre tous vos repères. Aucun sujet n'avait autant divisé la toile depuis la fois où Marie-Lou a croqué dans un kiwi à travers la pelure. Vous êtes encore là? Alors, laissez-nous vous présenter Elizabeth Swanee, une skieuse américaine qui a participé à l'épreuve de la demi-lune aux Jeux olympiques de Pyeongchang lundi comme représentante de la Hongrie, merci à ses grands-parents maternels, en ne faisant absolument rien. Pierre de Coubertin n'aurait rien compris. Vous avez bien compris. Elle n'a réalisé aucune figure, aucune pirouette, aucun saut. Elle s'est baladée d'un bord à l'autre de la demi-lune avec le style et l'agilité d'un enfant de 2 ans qui s'affirme en s'habillant tout seul. C'était long. La skieuse a adopté depuis 2013 la technique du « tant que je ne m'effoire pas sur la piste, je vais peut-être cumuler plus de points que celle qui s'effoirera sur la piste ». Elle ne fait donc rien. Mais elle reste debout. Drôle, stupide, génial, complètement inacceptable, probablement un peu de toutes ses réponses. Mais ça a marché. La diplômée de Harvard, moins, nous a prouvé qu'un des diplômes les plus chers à acquérir au monde ouvrait vraiment toutes les portes possibles, même celle de l'Olympe. Évidemment, la présence de l'athlète de 33 ans à Pyeongchang divise la toile, le monde et les humains qui le peuplent. Ça ridiculise le sport et les Olympiques, affirment certains. Convenons que ce n'est certainement pas dans l'esprit olympique que de viser le plus bas possible. Mais pourquoi cette femme, qui après tout ne fait rien d'illégal, n'aurait pas le droit de se montrer le visage, bien que masqué, aux Olympiques? En effet, si elle amasse plus de points que certaines skieuses et tout ça dans les règles de l'art, que peut-on vraiment lui reprocher? De prendre la place et le rêve olympique d'une autre femme qui n'a même pas réussi à battre quelqu'un qui ne réalise aucune figure? Il y a une nouvelle tendance qui fait rage sur les internets ces temps-ci et c'est Marianne Bergeron-Courteau qui nous en parle. La nouvelle tendance, cacher la bague de fiançailles dans un avocat. On le sait, demander la main à sa douce moitié est une grosse étape dans la vie d'un couple. Une tendance pour le moins inusitée a fait son apparition dernièrement, cacher la bague de fiançailles dans un avocat. Tout a commencé sur Instagram lorsqu'une professeure de yoga, Taylor Selby, a reçu une demande en mariage plutôt originale de son copain. Alors qu'ils étaient en voyage, son amoureux a mis le genou sur le sable et lui a présenté sa bague dans une moitié d'avocat, relate BuzzFeed. Depuis, les avocats s'invitent de plus en plus dans les demandes de mariage, comme en témoignent des publications sur les réseaux sociaux. Et on peut se demander, est-ce que c'est pas un peu tôt pour faire intervenir un avocat dans votre relation de couple? Enfin. On va terminer cette émission sur un sujet équivoque mais néanmoins très grave. Philippe Melbourne Dufour nous parle dans le Journal de Montréal de cet étrange incident. Le titre « Des flatulences à répétition causent une bagarre qui force un avion à atterrir d'urgence ». Eh oui, un pilote a dû effectuer un atterrissage d'urgence après qu'une bagarre eût éclaté dans l'avion qu'il pilotait. Deux Néerlandais auraient demandé à leurs voisins de cesser de péter, une demande qu'il aurait plutôt décidé d'ignorer. L'équipage du vol de Transavia Airlines a été alerté du désagrément olfactif, mais n'a pas réagi, ce qui aurait poussé les hommes originaires des Pays-Bas à s'en prendre physiquement à l'homme au gaz. Le pilote du vol de Dubaï en direction d'Amsterdam aurait fait plusieurs appels au calme sur l'interphone de l'avion, ce qui n'a pas été assez pour calmer les ardeurs des bagarreurs. L'avion s'est par la suite posé d'urgence à l'aéroport de Vienne où des agents de l'ordre attendaient pour appréhender les pugilistes ainsi que deux jeunes femmes qui se trouvaient trop près du trouble. Oui. Les quatre passagers ont été libérés sans être accusés mais sont bannis à vie de Transavia Airlines, après quoi le pilote a bien sûr remis les gaz. Et voilà qui conclut cette édition du 23 février 2018 du quotidien des quotidiens. J'aurai le plaisir de vous accompagner encore dès lundi, mais pour l'instant, je vous invite à demeurer à l'écoute puisque Kevin Breton viendra de vous parler de sport, de vrai sport, tout de suite après la pause. Merci et merci à Mathieu Tessier qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux de cette émission.